France Culture.
Bonjour Patrick Baudry.
Bonjour.
Voilà, nous nous retrouvons pour le deuxième entretien ensemble, intitulé « À toute vitesse ». Hier, on a évoqué très rapidement l'ensemble de votre carrière, à la fois le pilote de chasse, le pilote d'essai, le passionné d'avion, et le cosmonaute et l'astronaute, puisque vous vous êtes entraîné avec les Russes et vous avez volé avec les Américains. Et votre engagement en faveur de la conquête spatiale et de l'exploration spatiale, mais aussi votre engagement en faveur de l'éducation. Et nous avons vu aussi comment, par votre vie dès l'enfance, vous avez pu vivre d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Donc, brièvement, au Cameroun, où vous êtes né. Et puis Casablanca, Alger, avant de vous installer donc en région bordelaise, à Mérignac. Et votre papa étant ingénieur météo, c'est là que vous avez eu cette vocation pour les avions. Et j'aimerais vous poser la question aussi. Vous racontez que vous avez conduit une voiture aussi très tôt, dès l'âge de 10 ans. Donc alors c'est notre époque hein, parce que
sur l'aéroport d'Alger oui.
C'était votre papa qui vous avait autorisé de conduire une voiture. Vous pouvez nous en dire un peu plus parce que quand même c'est
autorisé.
C'est une sacrée anecdote.
Sûrement autorisé mais pas vraiment d'une manière très 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 volontaire disons. J'ai dû un peu le forcer. Non moi j'étais toujours passionné par la conduite, le pilotage d'un peu tout. Hein. Le vélo, les mobilettes, les motos, les voitures, les camions, les avions, un petit peu tout. Et c'est vrai que quand je me souviens à Alger, sur l'aéroport d'Alger, j'avais pris la Juva 4 du service et je me baladais sur les taxiways et je me suis retrouvé devant un avion. C'était un peu embarrassant, quoi. Et mon père a dû... Il a assumé, mais le pauvre... Voilà, bon, c'est. Il faut dire que jusqu'au bac, je travaillais sérieusement en classe. Je m'arrangeais pour être premier un peu en tout, histoire de pas avoir d'explications à donner à mes parents.
Vous avez souvent été inscrit au tableau d'honneur,
oui,
prix
toujours.
De mathématiques, oui. Accessite.
Le paradoxe, c'est que j'ai pas eu le bac en terminale, alors que j'étais premier pratiquement dans toutes les matières.
Mais je crois que vous aviez aussi bien profité de la vie comme un. Un bel adolescent en Gironde.
J'avais beaucoup d'activités.
Au début des années 60.
Et donc, j'avais finalement assez peu de temps consacré au scolaire. J'avais beaucoup d'activités.
Et puis, vous faisiez beaucoup de sport. C'était dans un
sport,
collège où
autres,
il y avait le terrain de foot, de rugby, Grand Lebrun, il y a un grand parc.
Ouais.
Et le sport est tout aussi, c'est une éducation un peu à l'anglaise. Hein. Il y a peut-être les racines.
Oui, oui.
C'est la congrégation des marianistes et une éducation un peu à l'anglaise parce que Bordeaux a des liens aussi avec la Grande-Bretagne. Et donc le sport est tout aussi important que les mathématiques, le français.
Il me semble, hein, c'est pas un avis partagé par tout le monde, il me semble. Moi quand j'ai recruté dans différentes fonctions des ingénieurs ou des directeurs etc. Quand je les ai recrutés dans l'entretien d'embauche, si je voyais qu'ils pratiquaient pas de sport, je les embauchais pas quoi. C'est clair. Hein. Mais bon après j'ai le bac avec mention très bien. J'ai passé le bac philo pour m'amuser avec mention très bien aussi.
On va évoquer la solution trouvée avec votre papa.
Oui.
Mais j'aimerais revenir sur le sport aussi. Est-ce que vous diriez que vous aviez une nature, enfin vous avez une grande énergie, enfin est-ce que de grands appétits aussi parce que la nourriture a aussi un grand rôle. À un moment donné, quand vous êtes à l'armée, vous aviez un peu trop grossi, donc il a fallu perdre du poids. Et vous êtes un bon vivant, et donc et cette énergie, le sport aussi peut-être aide
le sport,
à canaliser.
Ça, le enfin, sport comment suffit pas. Quand on a une nature à grossir, le sport ça suffit pas quoi. Même si on fait beaucoup de sport, moi je courais beaucoup, puis j'ai pratiqué toutes sortes de sports. J'étais champion de France en athlétisme, en sprint, en lancer. Enfin, donc j'arrêtais pas en fait.
Première blessure aussi grave. parce que
oui, oh, je me suis cassé le tibia, le péroné, enfin, je me suis un peu tout cassé de toute façon parce que j'ai beaucoup chuté, que ce soit à vélo, en moto ou en sport, en rugby ou autre. Mais ça, c'est un autre
vous,
sujet.
Vous racontez en tant que pilote, vous avez appris parce que vous disiez, enfin, on vous pose la question est-ce que vous avez peur de mourir, est-ce que vous avez peur, et vous dites, vous avez expliqué que vous n'avez pas peur, mais que du coup, par rapport à votre métier, vous avez dû faire des aménagements par rapport à ça.
Oui,
est-ce que vous pourriez
expliciter,
est-ce que c'est intéressant
très vite que c'est vrai, j'avais pas peur, j'ai jamais eu peur, donc je sais pas ce que c'est. Mais la peur, ça manque quand vous faites le genre de métier ou d'activité que j'ai eu, parce que elle vous permet de mieux appréhender le risque, le danger. Et donc j'ai vite compris que c'était pas forcément une qualité de pas avoir peur. Au contraire, ça m'a amené à faire des choses où j'avais aucune chance de gagner, de m'en sortir indemne. Donc j'ai pris ça en ligne de compte. Et j'organise ce que je fais en fonction du fait que c'est pas la peur qui va m'arrêter. Vous voyez, c'est le raisonnement. Donc c'est tout. Il faut s'organiser de manière différente. Hein. Et je suis toujours étonné quand on demande aux gens s'ils ont peur, ou alors quand les gens me demandent si j'ai peur, je dis j'ai peur de quoi ? Ils me disent pas eu peur de mourir. Je dis non, c'est la seule certitude qu'on a en naissance, c'est qu'on va mourir. Quoi. Donc j'ai jamais compris l'intérêt que portent les gens à leur propre mort. Quoi. Pour moi, c'est quelque chose qui aurait pu arriver il y a longtemps, qui arrivera demain. Je m'en fous vraiment éperdument. Quoi. C'est pas un paramètre. La vie, ce qui est important, c'est ce qu'on fait. C'est pas qu'elle risque de se terminer. C'est ce qu'on fait chaque jour, ce qu'on construit, etc.
D'ailleurs, dans une interview, vous dites si on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Vous expliquez que oui. ça vous ressemble bien, ça vous définit bien.
Oui, si on n'a pas tout donné, on n'a rien donné, ça c'est vrai. C'est vrai. Quand on fait un truc, il faut y aller, il faut aller au bout et y aller à fond. Quoi. Autrement, c'est pas la peine de commencer. Il faut éviter de s'arrêter en chemin.
Vous avez aussi échappé à un attentat à Alger.
Oui, ça c'était de la chance. Mais justement, si je suis vivant aujourd'hui, j'ai eu de la chance aussi. Par contre, j'ai échappé à l'attentat, le bus que je prenais toujours pour rentrer de l'école chez moi, Alger, je l'ai raté ce jour-là, parce que comme je suis aussi gourmand, je m'étais arrêté pour manger des alabias, et donc j'ai raté le bus. J'ai pris le suivant une demi-heure plus tard, et on a doublé le bus que je devais prendre, qui était... Une bombe avait éclaté, donc voilà. Donc là, j'ai échappé à ça, et puis j'ai échappé aussi à
c'était
beaucoup d'autres choses.
C'était en 54, enfin, c'était au moment au début des premiers attentats pendant la guerre d'Algérie.
J'avais 8 ans, oui, c'est ça. Je suis pas mort par chance, quoi, vous voyez, parce qu'on ne choisit pas tout, on peut pas tout organiser. Et voilà, donc la chance, c'est un élément important, mais quand on n'a pas tout donné, on n'a rien donné, je crois que la chance, on la mérite ou on la mérite pas. Vous voyez, quand on va à cloche-pied vers son but, on n'a pas forcément beaucoup de chance. Si on y va à fond, je pense, je me trompe peut-être, qu'on a davantage de chances de rencontrer la chance.
Mais c'est ça, on met une intention. Hein, donc,
oui.
Du coup, c'est
la chance, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est le hasard, c'est ce que vous avez construit, c'est votre entourage, c'est beaucoup d'événements qui font qu'on dit ben, hein, j'ai eu de la chance.
Dans votre ouvrage, aujourd'hui, le soleil se lève 16 fois, vous évoquez mais très rapidement une de vos grand-mères qui faisait de l'astrologie, qui tirait les cartes. Alors, je ne sais pas si elle avait essayé de vous influencer en vous disant que vous couriez des risques, que vous risquiez de mourir jeune, enfin... Est-ce que
non, au contraire,
elle avait essayé de passer un message ou elle était dans un autre monde?
Comme son mari l'avait foutu dehors, elle s'est retrouvée devoir assumer son existence, disons. Elle était à Bordeaux et elle s'est installée comme cartomancienne. Donc elle disait la bonne aventure aux gens, aux clients. Et vraiment, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Moi, qui me fascinait à l'époque, j'étais petit, hein, j'avais pas 10 ans. Mais c'est vraiment un personnage qui m'a fasciné. Et j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup le disent d'ailleurs, hein, je suis pas le seul, bien sûr. J'ai eu des parents extraordinaires, une grand-mère extraordinaire. Et donc une famille,
Odette et Roger, vos parents?
Odette et Roger, absolument. Et parce que c'est vrai que j'étais pas facile et qu'ils m'ont quand même encadré, bien sûr. Ils m'ont aidé à chaque fois qu'ils pouvaient. Et je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça fait partie de la chance. Vous voyez, les gens qui vous entourent, tout ça sont des facteurs qui, dans certaines situations, font que vous êtes du bon côté de la chose et donc ce qu'on appelle la chance.
Et vous n'avez jamais pensé qu'ils avaient été courageux de partir à l'étranger, même si votre maman, enfin son papa, déjà travaillait sur le continent africain, parce que quand même ils ont déménagé plusieurs fois. Vous évoquez aussi dans votre livre aujourd'hui le soleil se lève 16 fois que votre maman s'est trouvée séparée de votre papa pendant la Seconde Guerre mondiale pendant 7 ans. Est-ce que cette histoire familiale, vous en parliez? Est-ce que ça a pu nourrir
un
courage, une ténacité? Ou est-ce qu'il y avait un silence, comme il y a dans certaines familles où
non, il n'y
a pas de sujet?
Il y a eu beaucoup de sujets de conversation, mais pas celui-là, effectivement. Maintenant que vous en parlez, je me rends compte que non. Enfin, je n'ai pas souvenir de conversation. Il faut dire j'étais vraiment gamin. Toute cette période avant 10 ans, je ne sais pas si on s'intéresse vraiment aux conversations des parents. Mais pour revenir à ma grand-mère, quand même, c'est important, parce que vous me posiez la question, elle m'avait fait les lignes de la main, et elle avait vu, je m'en souviens comme si c'était hier, la ligne de chance, la ligne de vie, qui était particulièrement courte. Donc moi, j'ai toujours été persuadé que je mourrais très jeune. Et chaque année, j'étais étonné d'être encore vivant l'année suivante. Oui, c'est... Comme quoi, des choses anodines peuvent vous marquer. J'ai jamais cru à ce qu'elle disait, bien sûr. Mais néanmoins, vous avez toujours cette trace. Elle a fait ligne de la main. Très sérieusement, elle avait dit à ma mère, Patrick, il a pas une ligne de vie très longue, hein. C'est vraiment, parce que comme j'arrêtais pas de faire des bêtises, c'était aussi dans l'air du temps de dire, bon, voilà.
Et puis, visiblement, vos parents vous faisaient confiance. Et puis après, bon, je pense aussi qu'on était dans des années où on laissait plus, peut-être plus facilement sortir les enfants, partir au loin. Parce que quand on lit vos souvenirs, vous partez quand même assez tôt à bicyclette tout seul. Déjà, vous faites Aisine, Codéran ou en stop. Voilà, c'est encore une autre époque.
Pour aller en Corse, faire de la chasse marine ou autre.
Là, vous étiez un peu plus grand quand même.
C'est vrai, oui, un peu plus grand. Oui.
Mais par exemple, je crois que vous avez fait à vélo, justement, Bordeaux, les stations balnéaires à 40, 50 kilomètres de la ville.
À vélo, des Innes, j'allais à La Rochelle.
Vous êtes allé à vélo à La Rochelle?
Quand j'étais ado, déjà, j'avais 14 ans, parce que j'étais amoureux et elle était là-bas, enfin, à côté de La Rochelle, à Étré. Et donc, j'avais été à vélo à Étré.
Donc, au bord de l'eau, c'est très joli, Étré.
Non, j'étais pas très déçu. La maison, c'était pas une maison au bord de l'eau. C'était un truc dans un quartier un peu pourri. Enfin, bon. Donc, ça arrêtait là. Mais c'est... Oui, non, j'hésitais pas à prendre mon vélo pour faire 50, 100, voire 200 kilomètres. Et c'est vrai, je me rends compte maintenant que mes parents, ils m'autorisaient pas, je leur demandais pas, en fait. Donc, ils s'apercevaient quand j'étais parti, hein. Et j'aurais pas aimé que mes enfants fassent la même chose, c'est vrai. Donc c'était pas sympa de ma part.
Alors là, le moment où votre papa va sévir, on peut dire, c'est justement quand vous ratez le bac l'année de la terminale. Puis vous avez quand même ce beau projet d'être pilote là qui vous tient. Vous avez commencé à vous renseigner quand là pour être pilote?
Tout le temps. Parce que voilà, mon père. Très vite, il m'a renseigné, quoi, qu'il y avait d'abord une visite médicale. Donc ça a été une obsession jusqu'à ce que je puisse passer la première visite médicale d'admission à 18 ans, parce qu'on ne pouvait pas la passer avant. J'avais été à Strasbourg pour ça, au CMPN. Et là, ça m'a soulagé d'un poids quand j'ai vu que j'étais apte. Parce que c'est très injuste. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui auraient rêvé d'être pilote ou autre et qui n'ont pas pu parce que ou ils avaient une vue qui avait un problème ou le cœur, enfin des choses extrêmement injustes, quoi. Vraiment. Je savais qu'il y avait une visite médicale. Moi, je voulais faire une grande école pour faire l'école de l'air. Et j'ai vite compris quand même que plus on avait de diplômes, plus on avait de clés, de portes, plus on pouvait espérer d'aller plus loin sans avoir à se prostituer pour ça. Donc voilà, c'était ma motivation. Mon père, il m'a expliqué, il m'a dit, il faut vraiment faire les choses, autrement c'est pas la peine.
Et là, du coup, ça va être direction Autun en septembre Autun, 1964. Ouais. Donc là, vous changez de climat. Ouais. Du coup, vous coupez une année des copains.
Plus Bordeaux, plus les copains.
De la Dolce Vita bordelaise.
Voilà. Ben, j'ai beaucoup apprécié l'époque où j'étais encore mineur, parce que quand les gendarmes m'arrêtaient en moto, parce que j'avais pas de permis ni rien, bien sûr, c'est mon père qui allait au tribunal quand vous êtes mineur.
Oui. Vous voyez,
donc c'était bien. Je suis arrivé à Autun. La première chose que j'ai faite, c'est passer mon permis. Et puis travailler, quoi. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on peut faire de mieux, le sport et travail en classe. Mais
et
effectivement,
là, vous êtes allé au Prytanée. On a coupé les cheveux. Parce que vous aviez les cheveux longs, vous faisiez aussi du rock.
Non, je n'avais pas les cheveux particulièrement longs. Je pense pas. Mais c'est vrai, entre autres choses, je faisais partie d'un orchestre, des bretelles électriques, et j'étais batteur. Entre autres choses.
Voilà, du rock garage.
Entre le sport, les différentes activités, les équipes, etc. Plus la moto, la mobilette et tout ce qu'on pouvait faire à Bordeaux le samedi soir, ça faisait.
Oui, ça faisait beaucoup de distractions.
Ouais.
Donc là, dans l'Est, le Prytanée, la.
Mais le Prytanée, c'est. Moi, j'ai beaucoup apprécié, en fait.
Oui.
J'ai beaucoup apprécié de me trouver dans un établissement où il y avait vraiment une discipline et puis surtout une camaraderie, un esprit. À Grand-Lebrun, à Bordeaux, j'avais beaucoup apprécié aussi la vie, mais je faisais beaucoup d'activités sportives. Donc, mais que ce soit Autun, que ce soit La Flèche, au Prytanée, vraiment, j'ai beaucoup apprécié ces années-là, parce que, il faut bien comprendre, j'avais pas de problème dans mes études, déjà, donc, je pratiquais différents sports qui étaient bien vus pour l'établissement, donc, il n'y avait pas de raison que je sois malheureux, au contraire. Mais j'ai beaucoup apprécié les choses, c'est vrai. Les enfants de troupe, c'est une camaraderie. Et quand je rencontre des anciens de cette époque, on se reconnaît, on s'embrasse, voilà, quoi. C'est une famille.
Et là, vous êtes dit, papa avait raison de partir à Autun, puisque à l'issue, vous avez votre bac avec mention, et après, classe prépa.
Classe prépa à La Flèche, oui.
À La Flèche. Et au bout de cette prépa, là, c'est magnifique. Vous avez le choix entre les trois plus grandes écoles,
ouais,
dont
ouais.
celle de vos rêves. Parce que vous avez Polytechnique, Centrale
et l'école de l'air.
L'école de l'air.
Et j'ai choisi l'école de l'air parce que moi, ce qui me passionnait, c'était de pouvoir piloter les plus belles machines volantes. Et les plus belles machines volantes sont les avions de chasse, les avions de combat. Et donc, faire l'école de l'air, ça me permettait à la fois d'être ingénieur et en même temps de devenir pilote de chasse. Donc, c'est ce que je choisis. Et voilà, quoi, école de l'air, bon, classique, hein. Puis ensuite, pilote de chasse.
Mais à l'époque, vous suiviez aussi des revues, parce que vous évoquez, autant vous évoquez par exemple Moto Revue, je crois, enfin oui c'est ça,
oui.
C'est Moto Revue,
ouais.
Parce que voilà, vous êtes passionnant, on a compris
Mon autre passion,
de moto.
C'était la moto, absolument.
Mais du coup, vous aviez aussi des lectures autour du pilote de chasse, où là c'est plus l'environnement avec l'aéroport, comment ça vient, parce que cette culture, enfin, ou cette ouverture, comment vous l'expliquez, un goût de la mécanique aussi ou pas?
Je disais beaucoup, pas seulement Moto Revue, hein, mais beaucoup Motorevue. Et je me souviens, quand je suis arrivé à l'école de l'air avec des béquilles, parce que je suis parti des Innes, donc avec ma moto, hein, j'avais 18 ans, donc comme je travaillais tout l'été pour gagner de l'argent, j'avais pu m'acheter une moto. Et je me suis planté du côté de Carcassonne-Castelnaudary, parce que la ligne téléphonique, les poteaux téléphoniques suivaient la route comme partout, sauf que là il y avait un S et la ligne partait à travers champs pour rejoindre la route après le S. Et moi, j'allais toujours le plus vite possible. Hein,
bon. Oui, à toute vitesse.
Donc, à cette vitesse, le virage ne passait pas. Donc, je me suis retrouvé dans le champ avec la moto dessus. Et donc, je me suis cassé le poignet et je suis arrivé à l'école de l'air en train. En train, bien sûr.
En piteux état.
Et j'ai été accueilli par l'adjudant-chef Côté, qui a commencé par me demander de faire 20 pompes parce que j'étais pas bien habillé. Donc j'ai fait 20 pompes avec le poignet cassé, donc sur le coude. Oui. Non, pour dire que, je veux dire, mais c'était pareil à la flèche, c'était pareil quand on sortait des rails. Il y avait la conséquence et la punition. Donc c'était une autre époque, peut-être, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, ça choque beaucoup les gens d'entendre qu'on peut encadrer les gamins d'une manière un peu rigide. Mais moi, ça m'a beaucoup
aidé.
Après,
il y avait aussi une question de, comment dire, de que vous avez un appareil entre les mains qui
c'est autre
qui
chose,
coûte,
pilote, c'est autre
cher,
chose.
Parce que quand vous êtes pilote, là,
là, j'étais encore écolier, hein, puisque voilà, oui. J'entrais dans une école d'ingénieurs, ouais. Une école militaire. Mais la discipline, c'est indispensable pour le métier de pilote, par exemple, et pour beaucoup de métiers d'ailleurs, hein, bien sûr. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre et respecter. C'est un outil de travail.
Ouais. Et là, du coup, quelles étaient vos lectures à cette époque? Il y avait du roman ou des essais
Balzac. J'ai lu tout Balzac en une année. Je me souviens pas quelle année, peu importe. Je devais avoir 14-15 ans.
Ah, vous avez eu des prix, d'ailleurs, en français aussi.
Oui, avec, aussi en français.
Prends le bras. J'ai pu consulter les
archives. J'avais tous les prix, sauf l'anglais. L'anglais, j'étais que troisième de la classe, je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais aimé l'anglais. J'adore parler russe, j'adore parler espagnol.
Vous allez avoir une belle expérience avec les Anglais. Quand vous allez devenir pilote d'essai, on en reparlera tout à l'heure.
Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais non, l'anglais, pour moi, c'est un outil, ce n'est pas une langue. Donc, alors que pour vraiment pratiquer une langue, il faut l'aimer. Et il faut aimer la culture qui est derrière. Moi, j'aime beaucoup la langue russe et j'aime beaucoup la culture slave, les Russes, etc. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je rappelle quand vous avez été cosmonaute à la Cité des Étoiles, un des impératifs, c'était d'apprendre le russe rapidement et d'être capable communiquer avec un équipage en russe. Et du coup, là, on peut dire qu'on a triple obstacle parce que vous avez appris très vite une première langue, on va dire, au niveau parisien avant de partir à Moscou.
L'anglais, ouais.
Et ensuite, il a fallu se mettre à la Cité des Étoiles au vocabulaire technique.
Avant, parce que c'était un des critères de sélection. On a eu 2 mois pour apprendre à parler russe. Et donc, on apprend le russe en 2 mois. Hein. Le tout, c'est être motivé, c'est comme le reste.
Oui.
Si vous êtes motivé, si vous n'êtes pas motivé, vous pouvez apprendre. J'ai toujours aimé la légende qui consiste à dire qu'on peut apprendre une langue pendant son sommeil en passant de... C'est un truc. Vraiment, c'est un rêve de penser ça. En fait, on apprend une langue en travaillant. Alors, il y en a qui sont très doués, d'autres qui sont moins doués. Voilà, moi, il a fallu que j'apprenne le russe et j'ai appris le russe. Et voilà, alors qu'en classe, j'avais appris que l'anglais et l'espagnol.
Et là, donc, c'est toute une séquence là où vous enchaînez quand même très rapidement. Donc, vous allez être diplômé ingénieur, vous devenez pilote de chasse. Donc là, vous allez passer par. Vous
êtes
pilote de chasse. Oui, vous avez raison de me corriger. Les étapes. Oui, les étapes sont primordiales. D'ailleurs, il y a un roman que vous aimez beaucoup et dont on recommande la lecture, roman de Tom Wolfe, journaliste écrivain, L'étoffe des héros. Et j'ai gardé un petit extrait pour la fin de l'entretien. Il écrit ceci. Une carrière de pilote ressemblait à l'escalade de l'une de ces anciennes pyramides babyloniennes, les ziggourats, faites d'un nombre vertigineux de marches et de paliers, monuments d'une hauteur et d'un abrupt extraordinaire. L'idée était de prouver à chaque étape de l'ascension de cette pyramide que l'on était parmi les élus et les oints du Seigneur, parmi ceux qui avaient l'étoffe, c'est ce qui va donner le titre au roman, donc l'étoffe qui pouvait s'élever plus haut, toujours haut et même Dieu aidant, finir un jour par rejoindre au sommet les quelques privilégiés, l'élite qui seule avait le pouvoir de faire pleurer les hommes, bref, la confrérie de ceux qui avaient l'étoffe avec un grand E majuscule.
Oui, c'est très vrai. Mais sur les machines modernes, c'est moins vrai, mais c'est très vrai. Et ce bouquin de Tom Wolfe, L'étoffe des héros, est superbe.
Et il y a un autre passage, moi, qui m'a frappé, c'est quand il explique, alors on est dans les années 50-60, ce qui va évoquer comment un certain nombre de pilotes de chasse et d'essai vont devenir astronautes aux États-Unis. C'est la façon dont les pilotes ne veulent pas utiliser le siège éjectable parce que voilà, ils veulent pas peut-être qu'il y a un bras coupé, enfin, et que ils vont préférer accompagner l'avion jusqu'au bout, quitte à se cracher avec et à finir carbonisé dans leur avion.
Ben c'est pour ça que j'ai pu aller dans l'espace. C'est que je suis pas ni infirme ni mort d'un accident parce que j'ai pas voulu m'éjecter quand j'aurais dû m'éjecter, c'est-à-dire à 10 000 pieds, en passant par 10 000 pieds en vrille. Je me suis pas éjecté et j'ai récupéré l'avion et voilà, et j'ai pas été blessé. Les sièges éjectables à cette époque, n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on utilise aujourd'hui, vraiment. C'était des engins extrêmement brutaux, pas très performants. Qui parfois vous sauvez la vie, mais la vie n'était plus la même après. Aujourd'hui, les sièges éjectables sont magnifiques, quoi. Je sais pas si vous avez vu l'éjection des trois pilotes qui étaient à bord des Alpha Jets de la patrouille de France. Ouais. Une éjection comme ça, c'est impensable, absolument impensable, il y a 20 ans. Impensable. Et ils sont vivants, grâce aux qualités de leur siège. Et ça, les sièges ont fait des progrès considérables, sièges éjectables. Mais à cette époque, à l'époque dont parle Tom Wolfe, l'époque de l'étoffe des héros, si on pouvait éviter de s'éjecter, c'était mieux, quoi.
Alors justement, on va évoquer l'entraînement et puis comment on fait corps avec la machine, comment on aide à la faire évoluer, hein, parce que vous appartenez à cette génération où vous avez contribué au retour d'expérience et à modifier les machines, les voyages ou les missions. Et on va évoquer demain à la fois le pilote de chasse d'essai et surtout le moment où vous allez passer le concours pour le CNES et partir pour la Russie. Ce sera cosmonaute à la Cité des Étoiles. Merci Patrick Baudry.
Merci.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Guillaume Baldi, documentaliste Anne-Lise Signoret et Christine Anzano, une série de Meryl Moneghetti, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.